d'ailleurs pas seulement les grèves, dans des manifestations, etc., où il y a disons, ils gagnent quelque chose, et alors ils en tirent un intérêt de prestige, ou alors ils sont vaincus, il y a des victimes, et alors c'est toute la possibilité de l'agitation contre la répression, en faveur des victimes, etc. Ça, ça donne une nouvelle base de départ pour leur propagande et leur intérêt. C'est des abcès de fixation, d'une façon ou d'une autre. Alors ils sont toujours gagnants. Il leur faut des victimes. C'est des martyrs.
Qu'est-ce qu'elle était la position de Rosley là? Il n'était pas dans le coup, c'était l'USCG avait
rien. Ah non, il n'avait rien à faire. Non, à vrai dire, on n'a pas les remercier pour la bonne raison, c'est qu'ils étaient impuissants. Attention, c'était ça la réalité. Ouais, ils n'ont pas été plus vaches vis-à-vis de nous, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement.
C'était des socialistes, les types.
C'était des socialistes, parfois un peu communisants. Enfin, non, c'était des socialistes. Quoi. Et Guartolo en particulier était clairement
socialiste.
Dans le fond, oui, bon, il fallait leur donner une gentillesse, mais c'est, dans le fond, c'est tout à fait inutile, ça.
Tu peux supprimer.
Il faut dire aussi que du côté patronal ici à Genève, les entrepreneurs ne tenaient pas du tout à se mettre sous la coupe de leur centrale de Zurich. Parce que parfois, ils pouvaient penser que les Zurichois, d'ailleurs parce qu'ils avaient une attitude anti-alémanique, très certainement, c'était l'esprit genevois qui apparaissait également dans les milieux patronaux. Et alors, ils ne voulaient pas, ils voulaient créer leur petit truc pour Genève. Et alors, on se trouvait un peu dans une même situation. Et leur centrale de Zurich n'avait pas de possibilité de contraindre notre fédération, notre centrale à nous. Parce que la centrale à nous disait, à Genève, c'est une république, nous ne pouvons pas intervenir. Ils étaient impuissants les uns les autres. Ils étaient impuissants les uns les autres. Solidarité en remplacement, nous bénéficions de la solidarité générale des ouvriers de Genève. Voilà.
Et comment, il y avait différentes choses. Malgré tout, j'étais un type actif. J'obtenais des résultats mieux que tous les autres. Mes effectifs proportionnels étaient mieux que tous les autres. À côté de ça, j'avais une position générale, syndicaliste, j'étais non politicien, ce n'était pas des affaires politiques, les objectifs étaient bien précis. Puis disons-le, l'Union syndicale suisse était contente de m'avoir. Tu comprends, on était quand même là. On était l'organisation qui apportait un prestige d'activité syndicaliste, etc. Puis il y avait quand même cette menace communiste permanente. Objectivement, sans moi, ils auraient été noyés. Bon, je ne veux pas trop le dire parce que je ne veux pas que. Je ne veux pas le dire surtout, mais je ne veux pas non plus le dire. Enfin, on m'utilisait pas mal et peut-être même parfois du côté patronal, voire même gouvernemental, si j'ai eu de l'influence ou si j'ai été écouté. C'était parce qu'en même temps, ça permettait d'empêcher la poussée communiste. C'était pas simplement ma position anticommuniste qui m'a facilité les choses.
Alors les ouvriers te suivaient dans le mouvement. Les ouvriers qui te suivaient dans le mouvement, ils étaient anticommunistes comme toi.
Ils ne voulaient pas de la... Ils ne voulaient... Non, ils étaient plus positifs. N'est-ce pas? Pour eux, pour la majorité des ouvriers non politisés, les communistes nous emmerdaient parce qu'ils exagéraient ou parce qu'ils nous accusaient en dehors, alors que le travail était bien fait. Dans le fond, la raison fondamentale, c'est que le travail, bon, c'est embêtant parce qu'il faut se donner des couronnes des lauriers à soi-même, c'est embêtant, mais effectivement, le travail était bien fait. Les revendications étaient solides, elles étaient bien défendables, etc. Tu vois, j'entends, ça répondait à quelque chose, ça répondait aux besoins des gens. Et alors, j'éloignais la politique. Et comme je ne faisais pas une politique socialiste, on ne pouvait pas dire c'est parce qu'il il fait de la politique socialiste. Moi, je m'affirmais syndicaliste. Je ne m'affirmais pas anarchiste non plus. Je comprends, j'étais syndicaliste, j'étais coopérateur, j'étais très, très positif. Dans le fond, c'est cela, tu sais, c'était du bon travail de fait. Il n'y a pas eu de... À l'échelon de la masse, il n'y avait pas de discussion idéologique. Bon, moi, j'en faisais parce que je faisais de l'éducation. J'expliquais pourquoi il y avait des communistes et pourquoi les communistes m'attaquaient, etc. Bon, il fallait quand même bien justifier les raisons, parce que les communistes, eux, apportaient les éléments politiques dans la discussion. Ou qu'ils venaient avec la Russie, etc. À un moment donné, j'ai eu comme argument la propagande pour le stakhanovisme. C'était énorme, tu sais, l'histoire du stakhanovisme.
Alors, vous êtes la propagande pour le stakhanovisme. Carrément.
Hein?
Carrément.
Ah oui, et puis alors, ah oui, parce qu'ils faisaient la propagande carrément, tout simplement, parce que ça fait partie de leur phaséologie, n'est-ce pas? Et alors, il y avait un truc particulier qui nous touchait particulièrement, c'est que, entre autres, l'ouvrier exemplaire stakhanoviste était celui qui posait tant de centaines ou de milliers de briques par jour. Ça touchait les types du bâtiment. Un cas pressé, parce que c'est ça, tu vois, qui met les briques, etc. Les gens, et c'est des menteurs, et puis c'est des fous. Tu vois, alors il fallait utiliser précisément tous ces trucs-là. Non, mais objectivement vu, j'ai bien manœuvré, quoi, la barque. Hein, et sans intrigue. Vraiment, j'étais le combattant, un visage découvert, etc. On savait avec qui on avait affaire, y compris les patrons, y compris le gouvernement. Et par exemple, évidemment, les patrons, le gouvernement disait, en tout cas, avec lui, il n'y a pas de danger communiste. Il y a de l'agitation, etc. Il a souvent raison, parce que ça se disait tout de même, n'est-ce pas ? Il y avait cela. Du côté des patrons, moi, je leur disais, vous savez, si vous ne voulez pas m'écouter, vous aurez le reste. Et vous aurez d'autres emmerdements parce que moi, je vous donne des solutions. Parce que moi, dans mes actions, j'avais toujours deux, trois solutions de rechange. Hein, je voyais, en m'engageant, je savais qu'il y aurait une possibilité de s'en sortir d'une façon ou d'une autre, avec les honneurs. Hein. Et alors, je disais autrement, parce que c'est la pagaille que vous voulez. Avec moi, on peut discuter, je tiens mes gens.
Et quand je veux un syndicat fort, c'est parce que je veux pouvoir faire de l'éducation, je veux pouvoir avoir également la confiance de mes gens, etc. Et les gens étaient... les gens me suivaient parce qu'ils avaient confiance en moi. Bon, c'est ça.
Expliquer la semaine dernière comment j'ai foutu dehors, c'était la lutte idéologique, ça. Quand j'ai foutu dehors les autres, quand ils ont voulu m'imposer en communisme. Hein, c'était... Et là, j'étais prêt à foutre dehors. Alors, ce sont d'autres, parce que la centrale, un peu têtue comme ils étaient, ils auraient pu... Bon, il faut dire, j'avais le président Calus Berger qui faisait de la politique au national. Il était en contact avec les... Il parlait quand même assez bien français. Il était en contact avec des représentants genevois. Alors quand il y avait « dites donc, tronchet », etc., n'est-ce pas ? Alors les copains, les Rosselais ou les autres, les Borel, etc., ils disaient « mais non, tronchet, quand même, heureusement qu'on l'a », etc. Alors ça m'a fait un peu avec Jean Moury pour l'Union syndicale, ça fait quand même un certain parapluie, quoi. Il y a eu, je te dis, bon, ça a été fait avec passablement d'intelligence pour que j'aie pu résister pour en arriver là, quoi.
Dans les années 30, là on est en 30, la magistrature à Genève, elle est plutôt... Il y a des magistrats progressistes ou... Comment expliquer que ces types donnent tort au patron?
Oh, non,
ils donnent tort.
Ils ont donné tort, mais quand il y a eu des... À un moment donné, je le dis, je crois même à un endroit, où les juges ont, dans un appel, ont vu leur jugement cassé. Il y avait un juge du Cré. Je vais te dire, d'ailleurs, il y avait mes premiers juges au tribunal de police. C'était trois types. Il y avait... Le juge du Cré, qui gros, c'était catholique, hein. Bon vivant, Rougeau, etc. Puis un autre compère également, puis un autre éteint, comme ça. Et moi, tu vois, jeune hein, et pur comme il est, je les déshabillais hein, mentalement. C'est du plus vieux, là, qui c'est gros bouffi, etc., qui comprennent rien, qui vont me condamner, etc. J'avais le maître, ces types. Alors, boum, j'avais aucun complexe, tu vois. Et puis, ils ont pris fait et cause, d'abord, conformément à la routine de la loi, c'était cela. Et puis est venu se greffer à un moment donné l'influence de la polémique qui se faisait contre moi, et dans le cas de Ducré, avec le journal de la liberté syndicale et corporatiste, et puis du courrier de Genève. Alors il était dur, mais je dois dire qu'on était aussi bien défendu par l'équipe d'Iker. Ils sont allés trop loin, à tel point que dans une histoire, dans une certaine histoire, il y a eu leur jugement a été cassé. Et il y a eu un revirement où on a dit, mais enfin, il faudrait revoir quand même les choses. Mmh. Et comme ils pouvaient condamner quand même, alors ils faisaient quand même des considérants parce qu'ils devaient avoir, je pense, des directives en disant, dites donc, il faudrait en finir avec cette histoire. Après tout, les talions un peu partout, on disait les ouvriers n'ont pas tout tort, etc. Tu vois, Télin dans le messager social, par exemple, disait, mais enfin les ouvriers n'ont pas tort. J'avais des articles, etc., d'amis protestants dans le messager social. Alors tu vois, ça a créé quand même un tournant, quoi. Très convenable, etc. j'ai dû admettre le bien fondé de leur... Mais j'ai dû quand même leur dire que la loi ne me permettait pas d'intervenir contre les entrepreneurs. Ça avait fait un tollé chez eux. Arthur Etienne, tu vois ça, c'est un libéral. Il l'a dit au tribunal.
Mais ils acceptaient de venir témoigner pour vous? Ils auraient pu refuser.
Oui, mais enfin, si le défenseur dit « j'ai des questions, même juridiques ou autres, j'ai des questions à poser », c'est pas forcément, il n'est pas obligé de dire « il va venir pour défendre les perturbateurs ». J'ai besoin de connaître ce qui s'est fait et pourquoi ça s'est fait.
Et je vais demander,
à M. Turetini, est-ce que les syndicats vous ont interpellé, vous ont demandé d'intervenir, etc. C'était pas... Là, dans le cas de Turetini, ça a été un accès de...
Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la bourgeoisie genevoise, il y avait... Deux patronats différents, un patronat qui était plus progressiste, plus de pointe, et puis un patronat très réactionnaire.
Non, il y avait...
Une autonomie de la magistrature
Non, c'est pas ça. Il y avait un... Le patronat était partout de même, parce que sous des formes diverses, ils ont été réactionnaires. Mais il y avait une population, une couche de population compréhensible. Et je dois dire, davantage dans les milieux protestants, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était, n'est-ce pas, qui était... Et pas, il n'était pas noyauté comme dans les milieux. Il faut bien en parler, puisque les juges, par exemple, les juges sont nommés par les partis. Par conséquent, qu'on le veuille ou non, C'était des gens qui prenaient position en raison de leur position, de leur conception fondamentale. Or, il y avait une action menée par les catholiques, donc de Bérard, avec le courrier et la liberté syndicale, qui était une action et qui s'appuyait sur quelque chose de solide, le Rerum Novarum, n'est-ce pas? Et alors, il y avait là une position de doctrine. Ce qui empêchait précisément, dans le fond, le dialogue auquel, par exemple, les protestants étaient, on n'utilisait pas le terme à l'époque, mais enfin, étaient plus enclins à dire, mais enfin, il faudrait voir, il ne faut pas, parce qu'ils ont... Il y avait quand même aussi, je pense par exemple, des types comme Berthelet qui était dans le mouvement et qui était quand même membre du consistoire. N'est-ce pas? Non, ça le sait. Tu sais que pendant la guerre, la compagnie des pasteurs m'a invité à l'auditoire Calvin, à la Taconaï, pour leur faire un exposé sur les préoccupations de la classe ouvrière. Je sortais de Bochou. Il fallait le faire, tout de même.
Hein? Tu ne parles pas de ça. Oh, mais s'il fallait tout dire.
Mais bien sûr. Mais tu me vois, moi, dans l'auditoire Calvin, parlant à un auditoire qui remplissait le truc. Là.
Prenez votre crayon, c'est trop cher. Vous ferez une note sur ce sujet.
Oui.
Une petite note sur ça.
Non.
Allez, c'est sympa.
Non, mais il y a tellement de choses.
Non, mais ça, c'est
écoute,
sympa.
Écoute, je vais te dire.
Un anarcho-syndicaliste dans l'auditoire de Calvin.
Bon, enfin. je vais te dire, bon, je me retrouve là dans la même situation que je me suis trouvé à mardi. C'est avant-hier, le 14, je crois que c'était. J'avais une réunion du conseil de fondation du Collège du Travail. Et j'avais alors proposé un en-tête de lettre. Alors je voulais faire l'en-tête de lettre, Collège du Travail de Genève, et puis les trucs administratifs. Et puis là, j'avais fait un équerre collège, au travail, etc. Et puis j'avais pris l'écusson genevois, ce que fait par exemple l'association des communes de Genève, après tout, pourquoi pas. Mais j'avais laissé dessous le poste Nebras. Alors il y avait là Madeleine Berthelet, qui est donc la femme de Raymond Berthelet, et qui sont très protestants, et qui est la secrétaire du collège. Émile Madeleine, parce que son mari est handicapé. Et alors, c'était un éclat de rire. Alors, elle se marrait, etc. Alors, Madeleine a dit, « Ah, Lucien, il n'arrivera pas de nous étonner. » Il se marrait de ce truc-là. Alors, pour finir, ils l'ont trouvé quand même. C'est eux qui l'ont trouvé un peu fort. Alors, il a fallu retrouver un truc pour mettre là, supprimer le poste Nebras, puis après tout, supprimer l'écusson. Alors, on va reprendre l'insigne du drapeau de la Première Internationale, qui est une ruche avec des abeilles. Alors, ce sera la ruche. Je vais te dire pourquoi. J'ai créé un bâtiment qui s'appelait là-bas la ruche. J'avais des idées c'était Sébastien Faure qui avait une école d'éducation qui s'appelait la ruche. Et puis, j'ai construit un bâtiment à côté, en face, qui ce bâtiment-là est une société, c'est une coopérative, on est obligé d'en faire une société immobilière. C'est avec ça que l'on va financer finalement le collège du travail. Ça fait toute une heure. Et puis, j'ai créé le bureau, la section des archives, pour la réception des archives et pour commencer, dans le bâtiment de la ruche. Je ne sais pas si tu vois le bâtiment, il faut que tu passes une fois à la rue des Maraîchers. Dans ce bâtiment HLM, comme il y avait des appartements au rez-de-chaussée qui sont atteints par les pollutions, les voitures qui sont dans le parc, etc., alors il faut qu'on supprime ces appartements, j'en ai fait la section des archives. Alors, c'est Chavannes qui a dit, mais après tout, on a la ruche, on a le rucher, en mettant les abeilles, alors on supprime l'écusson, et puis on va faire l'entête avec des abeilles, mais je me référerai, moi, au drapeau que j'ai déposé au musée d'art et d'histoire, du dernier drapeau en Europe occidentale de la Première Internationale. Mais, bon, je te dis ça comme ça, parce qu'il est pas mal que tu connaisses un petit peu cette activité-là que je fais aussi, mais ça a été l'exclamation de Madeleine Berthelet, comme tu viens de le faire. Tu sais, ah, oh, c'est formidable! Bon, je te dis, on ne peut pas tout dire. Alors, on verra. Quoi. Non, mais il y a eu des trucs marrants, quoi, qu'est-ce que tu veux?
Non, mais ça, je ne sais pas où ça va dans le.
Hein, des ouvrières de chez Lastar. C'était formidable. Je crois t'en avoir un peu une fois parlé, mais tu l'as oublié, c'était au début peut-être. J'avais affaire à une fabrique d'allumettes Lastar à Châtelaine, juste d'ailleurs à côté des bâtiments que nous avons construits, dont je te parlais tout à l'heure. C'était une femme solide, une Roumaine, et intelligente. Femme d'un diplomate, mais qui avait dû se mettre dans le commerce, etc. Puis les femmes, les hommes de métier ont réclamé, etc. Ça a été une des meilleures grèves que j'ai faites. Les femmes, par exemple, c'était très actif pendant les grèves, elles allaient attendre celles qu'elles craignaient qu'allaient faire les croumir, hein. Elles se postaient sur le palier. Puis quand les femmes ouvraient leurs portes pour prendre le pot de lait, elles voyaient qu'il y avait le piquet de grève devant leur porte.
quoi il fallait le faire aussi, d'une maison à l'autre, d'un palmier à l'autre, dans les quartiers, etc. Puis alors, on a occupé l'usine, et les flics sont venus. Hein. Il n'y a pas eu moyen de m'embarquer. Hein. Les femmes se sont mises autour de moi, elles m'ont défendu bec et ongle. Moi, j'ai pas bougé. J'ai pas eu besoin de bagarre. C'était quelque chose de formidable, cette grève des allumetières. Et comme le problème des femmes est posé, je voudrais pouvoir le raconter. Tu vois. C'est pas parce que, alors ça c'est important, parce que ça répond à cette préoccupation d'aider les femmes à se développer, parce que j'engueule les femmes du parti, et puis les femmes, quand je réclame qu'elles soient dans le comité directeur, etc., des connards à l'Assemblée générale qui disent « Nous refusons d'être des femmes objets, etc. » Je dis « Mais c'est de l'infantilisme, hein. tu t'imagines pas que nous, là, chez les ouvriers aussi, on a dû prendre notre place, si vous prenez pas vos places, vous, comment on fera ?» Tu comprends, je les secoue un petit peu, même ces femmes. Alors, ça me plairait, tu vois, de dire ça, parce que ce serait l'opportunité. Pas de l'opportunisme, parce que je n'en fais pas, mais des opportunités.
Je les saisis toutes.
Là aussi, pour aller faire des, parce que j'étais quand même demandé, c'était également une interdiction au sein de la fédération que les militants locaux puissent aller ailleurs, etc. Mais les copains, j'y allais, bref. Et alors, je devais faire une réunion à Saviez, pour la réunion syndicale, puis pas moyen d'avoir non plus un local. Alors on est allé dans les vignes, là-bas, avec Fifre et Tambour, tu sais, pour traverser les villages. Et alors, il y avait les femmes qui nous voyaient, elles ouvraient les... C'était derrière les fenêtres, etc., ou celles qu'on voyait dans les rues, ça faisait des signes de croix. Alors là, en parenthèse, j'étais resté sans bouffer toute la journée parce que on mangeait assis sur les cailloux et on mangeait la raclette faite au feu de bois de vigne, tu vois, au sarment de vigne. Et puis comme moi, je mangeais pas de fromage, alors j'allais leur manger le fromage, foutais le fromage dans les fagots de vigne où j'étais assis.
Tu manges pas de fromage, hein?
Pas cuit. Maintenant, je le fais, mais je mange pas de fromage en général, mais je le mange cuit, mais en fondu seulement.
Et pourquoi? C'est parce que tu ne supportes pas ou c'est un
principe? Je sais pas, je n'ai jamais pu, mais même en prison. Bon, en prison, c'était un truc formidable, parce qu'on avait une ration de gras par semaine, je crois. Alors, c'était présenté sous un morceau de fromage. Alors, moi, je savais pas comment... Il fallait quand même bouffer. Alors je m'étais fait un réchaud avec un encrier, un bout de tôle, un bout de ficelle, puis l'huile que je voulais au moteur du tracteur, et puis un bout de tôle que je m'étais formé, etc. Puis je me fondais mon fromage sur mon quinquet à huile. Quand j'étais secrétaire de la fédération, tu vois. Alors, il me faisait une saisie.
Comment ils pouvaient accéder à ce truc?
Ah, mais bien sûr, puisque vous prenez assez pour être saisi. Étant porté dans le... intégré dans le système, et par ses fonctions politiques, etc., il est devenu président du Conseil national à un moment donné, il est devenu conseiller d'État, c'est-à-dire, c'était un homme du régime. Bon, il pouvait pas donc accepter ni la révolte, ni l'émeute, il pouvait craindre
l'émeute du côté ouvrier,